إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم بمنك وكرمك وإحسانك ورحمتك وفضلك، يا من لك الدنيا والآخرة وإليك المعاد، يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. أما بعد، شير فريري سور أن إسلام تو دابور جو بودري بو ساليي بار لا فورميل دو ساليتاسيون دو الإسلام qui est celle des compagnons du paradis, en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu, sa miséricorde infinie et ses bénédictions soient sur vous. En effet, par la grâce de Dieu, nous voilà aujourd'hui réunis dans cette salle, en ce mois béni de Ramadan, pour nous entretenir de la parole de Dieu, pour parler de Dieu et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autour d'un thème qui, à mon sens, est particulièrement important à connaître pour tout musulman, surtout à une époque où il y a des tentatives d'occulter l'existence de l'islam, ce système universel et éternel révélé du ciel, qui est aussi clair et évident que la lumière du soleil, à savoir parler des fondements du droit islamique. Le droit islamique est un droit tout à fait particulier, tout à fait singulier en son genre, pour plusieurs raisons. Parce que c'est le droit de l'islam, l'islam, cette religion donc universelle, ce système universel et éternel qui a été révélé par Dieu. Mais qu'il convient tout d'abord, avant de rentrer dans les détails du sujet à proprement parler, de découvrir ensemble, ou bien de nous rappeler ce que c'est que l'islam. Eh bien, l'islam, pour le définir, c'est cette soumission volontaire et consciente, en toute connaissance, que le musulman doit observer vis-à-vis de Dieu le Très-Haut, pour se conformer à une loi universelle, qui est la loi de la soumission universelle, c'est-à-dire la loi selon laquelle toutes les composantes du cosmos, c'est-à-dire toutes les créatures de Dieu, sont soumises à Dieu, de gré ou de force. Nous avons eu l'occasion de parler de cette loi de la soumission universelle, qui fait que toutes les composantes du cosmos sont soumises de gré ou de force à Dieu. Nous avons des multitudes d'exemples. Vous avez par exemple la loi selon laquelle ou par laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en ce 17e jour du mois de Ramadan dans cette salle. Et selon cette loi, qui est la loi de l'existence, la loi d'abord de la naissance, parce que les gens qui doivent naître, l'enfant qui doit naître après une gestation de 9 mois est obligé de naître, forcément, selon une loi. Cet enfant est soumis de gré ou de force à une loi qu'on appelle la loi de la naissance, que nous connaissons tous. Vous avez également une autre loi que nous connaissons tous également, dont Dieu nous rappelle tant dans le Coran, la loi de la mort, de la séparation entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit. Vous avez la loi de la pesanteur, la loi de la poussée d'Archimède, etc., etc. Un ensemble de lois que Dieu a établies dans le cosmos, auxquelles nous sommes soumis de gré ou de force. Eh bien, toutes ces lois-là, pour l'islam, rentrent dans le cadre de cette soumission universelle, de cet islam-là, vers laquelle Dieu nous invite, nous les êtres humains, à nous soumettre cette fois-ci de gré. Parce qu'à la différence des autres éléments du cosmos, Dieu nous a donné, nous les êtres humains et les djinns, la possibilité de choisir. De choisir de nous soumettre dans une mesure bien précise, de nous soumettre ou de ne pas nous soumettre. Il y a des lois auxquelles nous sommes soumis, nous aussi, de gré ou de force. Mais il y a certaines lois à propos desquelles nous avons le choix de nous soumettre ou de ne pas nous soumettre. C'est ce que l'islam appelle le libre choix ou le libre arbitre. Parce que nous avons été placés dans ce monde pour être éprouvés par Dieu, et puisqu'on parle d'épreuve, on parle de la possibilité de choisir, n'est-ce pas, afin d'être responsable devant Dieu le jour des comptes, des actes que nous avons librement choisis de faire ou de ne pas faire. Alors, en gros, donc, c'est cela la définition de l'islam. Parce que l'islam n'est pas seulement ce message qui, à partir de l'an 610 de l'ère grégorienne, a été véhiculé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, comme je l'ai dit, est un système qui est universel et éternel. Il n'y a pas une composante du cosmos qui ne relève pas de l'islam. C'est pourquoi tous les envoyés de Dieu, tous les prophètes, depuis le premier homme Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été des musulmans, sont venus véhiculer l'islam, sont venus véhiculer des messages de l'islam. Parce que le message original de Dieu, il est un et un seul, écrit, enregistré sur des tablettes gardées, qu'on appelle Lawh al-Mahfouz, qui se trouve sous le trône de Dieu, au ciel supérieur. Et Dieu a eu à travers les âges, par intermittence, à prendre de ce message universel, ce message éternel, qui se trouve auprès de Dieu, qui est la parole éternelle de Dieu, la parole incréée de Dieu, pour la véhiculer aux êtres humains, aux différentes sociétés, à différentes époques, selon l'évolution de la société humaine. Lorsque la société humaine a atteint sa maturité, Dieu a envoyé donc le message ou une version parachevée de son message universel à l'intention de l'humanité, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a eu le privilège de venir véhiculer ce message, qui cette fois-ci ne s'adresse pas à une communauté déterminée, ou bien ne concerne pas une époque déterminée, mais plutôt s'adresse à l'humanité tout entière et est destinée à rester éternellement jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ce qu'elle porte. Alors, c'est cela l'islam. Ce n'est pas cet islam que nous, en tant que communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, seulement nous suivons. Il est vrai qu'aujourd'hui, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la seule communauté qui se trouve authentiquement sur le message divin. Le message authentiquement divin. Mais l'islam n'a pas commencé avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même, Dieu l'a invité dans le Coran à dire « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul » Dis-leur, dis aux hommes, je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas venu innover, je suis venu parachever, compléter le message universel de Dieu. Et le prophète alayhi salatu wasalam, Dieu nous l'a dit dans le Coran, dans plusieurs versets, qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière parce qu'il est le porteur de la version parachevée de ce message universel. Alors donc, lorsque nous parlons des fondements du droit islamique, nous devons savoir que nous nous situons dans ce contexte, c'est-à-dire dans le contexte du projet de société que Dieu a choisi pour l'humanité tout entière, qui est seul capable d'assurer le bonheur, d'assurer l'épanouissement harmonieux de l'être humain. Pourquoi ? Pour une deuxième raison que je vais vous citer ici, que j'ai eu l'occasion d'expliquer à d'autres conférences, dans d'autres conférences. À savoir que, si vous regardez toutes les idéologies, toutes les philosophies, tous les courants de pensée, vous trouverez que ces courants de pensée, ces philosophies, ces idéologies sont déséquilibrés. Parce que ces courants de pensée, ces philosophies et ces idéologies mettent l'accent sur un aspect de la double nature de l'être humain, ou bien l'aspect matériel seulement, ou bien l'aspect spirituel seulement. Et j'ai eu l'occasion de définir ou de donner la définition que l'islam, dans le Coran et dans la Sunna du prophète, nous a proposée pour la nature humaine. Parce que c'est en diagnostiquant l'être humain, c'est en découvrant sa nature, c'est en le définissant, en définissant l'être humain, en définissant sa nature de manière appropriée, que l'on peut savoir véritablement ce que c'est que l'être humain et pouvoir ainsi proposer des solutions appropriées à ces problèmes. Les problèmes auxquels l'être humain est appelé à être confronté dans cette échelle où nous nous trouvons, l'échelle de l'ici-bas. L'être humain doit forcément être confronté à des épreuves parce qu'il est venu ici. Pour l'islam, il est venu ici pour être éprouvé. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes et que nous sommes appelés à résoudre ces problèmes de nous-mêmes. Évidemment, en nous appuyant sur l'assistance de Dieu, sur l'aide de Dieu, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, par définition, l'être humain ne peut pas se passer de Dieu. Pour l'islam donc, les versets du Coran sont très nombreux pour nous le dire, j'ai eu à les citer, qui nous disent que l'être humain a une double nature, la moitié matérielle, la moitié spirituelle. Lorsque Dieu a dit dans le Coran qu'il a créé l'être humain à partir de la terre, c'est-à-dire à partir des éléments de la matière, et que lorsqu'il a donné forme à l'être humain, il a soufflé en lui de son esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui nous loge, qui nous donne cette particularité d'être des êtres humains, et d'assumer le dépôt, l'amana, dont le Coran nous a parlé, qui est de gérer la terre conformément à la volonté de Dieu. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. C'est ce que Dieu nous a dit en nous parlant justement de ce dépôt, de cette responsabilité de gérer la terre conformément à la volonté de Dieu, une volonté de vertu et de justice. Et Dieu nous a dit de ne pas suivre un autre chemin. En effet, c'est une longue histoire. C'est un sujet qui est très long, qui demande des conférences. Lorsque Dieu a établi l'être humain sur la terre, on connaît les circonstances dans lesquelles l'être humain a quitté le premier paradis pour se retrouver sur la terre. Le Coran nous a conté tout cela dans les détails. Dieu a dit à l'être humain, اِحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dieu a dit à l'être humain, ou bien au premier couple, descendez sur la terre et attendez que je vous envoie mes messages pour vous rappeler votre raison d'être dans ce monde ici-bas où vous devez être éprouvé. Quiconque suivra ma voie ne s'inquiétera pas, ne sera pas inquiété et ne se fera pas de soucis dans ce monde d'ici-bas comme dans le monde de l'au-delà. Et quiconque se détourne de ma voie, eh bien, cette personne-là fera face à ma punition et à mes sanctions. Que Dieu nous en garde. Alors ainsi donc, nous avons situé ce que c'est que l'islam afin de parler du droit, des fondements du droit que l'islam nous propose. Alors, pour commencer, nous allons directement parler des caractéristiques de ce droit, des fondements du droit islamique. La première caractéristique du droit islamique, c'est que le droit islamique se base sur une loi fondamentale qui est d'origine divine, à savoir le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ijtihad. L'ijtihad qui est cet effort intellectuel qui est fourni, qui est déployé par les savants de l'islam à la lumière des deux premiers fondements, des deux premières sources, le Coran et la Sunna, pour trouver des solutions aux problèmes inédits qui se posent à la communauté de l'islam. On revient un peu en arrière pour parler avec un peu de détail de ces trois éléments. Le Coran. Le Coran est la parole incréée de Dieu. Et je peux dire sans risque de me tromper que le Coran est la parole incréée de Dieu. Et que personne au monde, depuis 14 siècles qu'il a été révélé, ne peut donner une preuve du contraire. Parce que nous avons connu des livres, nous avons connu des grands écrivains, des grands poètes, etc., qui ont produit des chefs-d'œuvre. Mais des chefs-d'œuvre qui, une fois écrits, le lendemain sont dépassés, dans l'espace comme dans le temps. Le Coran comporte d'ailleurs des défis qui ont été lancés depuis sa révélation. Dans le premier chapitre du Coran, le chapitre de la vache, Dieu lance un défi à toutes les créatures pour leur demander de produire, s'ils doutent, si ces créatures-là doutent du caractère divin du Coran, de produire quelque chose qui ressemble, même une petite partie, qui ressemblerait à une sourate, à un chapitre du Coran. C'est ce défi que Dieu a lancé. S'il y a des candidats pour relever ce défi, qu'ils sachent que ce défi existe encore dans le Coran. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça le défi. Il y a d'autres défis encore dans le Coran. Quelle est la traduction de ce défi en français? Dieu dit à l'intention des hommes, à l'intention des êtres humains et des djinns, que le Coran appelle al-Thaqalayni, c'est-à-dire les deux créatures qui sont chargées de ce dépôt, de cette amana de Dieu. Dieu leur dit « In kuntum fi raybin wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina » Si vous êtes dans le doute, si vous vous doutez, un temps soit peu, du caractère divin de ce livre que j'ai révélé à mon serviteur, c'est-à-dire à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je vous invite à produire une seule sourate, « Fa'tu bi suratim min mithlihi » qui ressemblerait à une des sourates du Coran. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا si vous ne le faites pas, وَلَنْ تَفْعَلُوا et je sais que vous ne le ferez jamais. C'est toujours Dieu qui parle dans le verset. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ alors je vous invite à mettre entre vous et l'enfer que j'ai préparé pour les mécréants un écran. C'est-à-dire, je vous invite à croire, à vous soumettre à moi. C'est-à-dire à vous conformer à cette loi de la soumission universelle. À vous soumettre de votre propre gré et à croire au caractère divin de ce livre. Donc, voilà une preuve irréfutable du caractère divin du Coran. Il y a également d'autres preuves, parmi lesquelles l'inimitabilité du Coran. D'abord, dans sa forme, c'est-à-dire dans la construction même des phrases, des versets, des sourates du Coran. Personne ne peut produire un texte qui ressemble en termes de perfection linguistique, d'architecture linguistique au Coran. Ça n'existe pas. Vous avez ensuite le fond du Coran. Le Coran comprend par exemple une multitude de versets scientifiques, d'énoncés purement scientifiques. Et le Coran a été révélé, comme vous le savez, il y a 14 siècles. C'est-à-dire, imaginez-vous, puisque nous parlons français, prenons l'histoire de la France au temps du roi Dagobert en France. Et imaginez-vous à quel état se trouvait l'humanité à cette époque-là, sur le plan du développement scientifique et technologique. Je vous donne un exemple de l'anticipation que le Coran fait sur le développement de la science. Vous avez certains versets du Coran, parmi lesquels ce verset-là, dans lequel Dieu dit « Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana alaqatan, fa khalaqa fa sawwa, fa ja'ala minhu zawjayni dhakara wa untha, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta » Qu'est-ce que Dieu dit ici? Ici, Dieu nous révèle une réalité scientifique de premier ordre. La responsabilité qu'a les spermatozoïdes dans la détermination du sexe de l'enfant. Comme vous le savez, l'ovulation se fait par les spermes et les ovules. Et il a été démontré scientifiquement que ce sont les spermes qui sont chargés de gamètes femelles et de gamètes mâles, à l'opposé des ovules qui n'ont que des gamètes femelles, qui sont responsables de la détermination du sexe de l'enfant. Le Coran nous en a parlé depuis sa révélation. Ça, c'est un exemple. Il y a encore d'autres, une multitude d'autres exemples. Alors, sans rentrer dans les détails, si on veut parler du miracle du Coran, je crois que nous avons une conférence d'ailleurs, peut-être c'est la semaine prochaine, qui est consacrée au miracle scientifique du Coran. C'est un sujet qui est très long, qui est très vaste. Donc, de manière irréfutable, personne ne peut démontrer le contraire que le Coran est la parole incréée de Dieu, surtout lorsqu'on sait que ce Coran a été révélé sur un prophète illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, par le témoignage même du Coran. Alors, ça c'est donc la première source des fondements du droit islamique. Ensuite, il y a la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue également de la révélation révélée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit dans le Coran. En effet, Dieu dit dans un verset, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le prophète ne parle jamais de sa propre impulsion, de ses propres désirs. Tout ce qu'il dit est de la révélation révélée. C'est-à-dire tout ce que le prophète dit et tout ce qu'il fait, même sa vie privée, constitue une loi, un exemple pour la communauté des croyants. Et le Coran vient justement nous expliquer, nous déchiffrer le Coran. Donc nous ne pouvons pas également nous passer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, vous avez la troisième source qui est l'ijtihad, qui est l'effort intellectuel que fournit les docteurs de la loi islamique. C'est ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. L'effort intellectuel fourni par les docteurs, c'est-à-dire des gens qui ont rempli un certain nombre de conditions en termes de connaissance et d'assimilation des deux premières sources, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, qui, à la lumière de ces deux premières sources, énonce ou bien propose des solutions aux problèmes inédits qui se posent à la communauté de l'islam. Parce que il faudrait que les gens les comprennent. L'islam pénètre dans tous les aspects de la vie du musulman. Il n'y a pas une activité, il n'y a pas un domaine qui concerne la vie individuelle ou collective du musulman qui ne soit codifié par l'islam, qui n'a pas un chapitre dans le droit islamique. Ça n'existe pas. Ça, c'est une information pour les gens qui pensent qu'une certaine situation peut continuer. Lorsqu'on a une communauté musulmane, que cette communauté musulmane soit régie par une loi qui n'est pas celle de l'islam. C'est une situation qui est contre nature. Parce que le droit islamique, peut-être vous allez le voir au fur et à mesure que nous avançons, c'est le droit le plus complet, le plus achevé et le plus parfait. Sans risque de me tromper, je vous le dis, parce que tous les droits de la terre, en particulier le droit occidental, le droit positif, par opposition au droit islamique qui est un droit normatif, le droit positif ne se soucie que de la vie matérielle de l'être humain. Le droit islamique transcende la vie matérielle pour s'occuper de la vie spirituelle même de l'être humain. Vous le verrez au fur et à mesure, Inch'Allah. Alors donc, ça c'est la première caractéristique du droit islamique, à savoir son origine divine. Et il n'y a que le droit islamique qui a cela. Ça, c'est une caractéristique fondamentale par laquelle le droit islamique se singularise par rapport aux autres formes de droit. Ensuite, il y a une deuxième caractéristique, c'est l'universalité. Le droit islamique s'applique à toutes les sociétés parce que le message de l'islam s'adresse à toutes les sociétés sans exception. Que ces sociétés-là rentrent dans l'islam ou pas, il y a des dispositions dans le droit islamique qui les concernent. Et le droit islamique, à ce que je sache, sans risque de me tromper, est le premier système juridique à avoir des dispositions en matière de droit international. Donc, l'universalité est la deuxième caractéristique du droit islamique. Sans compter évidemment les minorités, etc. Vous avez ensuite la durabilité, l'éternité du droit islamique dans le temps. Le premier cas, c'était dans l'espace. Dans ce cas, c'est dans le temps. Il y a 14 siècles que le Coran a été révélé en tant que révélation authentiquement divine. L'ange Jibril a fait 23 ans de navette entre le ciel et la terre pour révéler le message de l'islam. Et depuis lors, depuis que le prophète a rejoint son Seigneur très haut, l'ange Jibril, qui est chargé par Dieu de véhiculer tous les messages divins à tous les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange n'est plus revenu et il ne reviendra plus parce qu'il n'y aura plus de révélation divine. C'est le Coran qui nous le dit. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم était le père d'aucun d'entre vous, c'est la traduction du verset. Il a été le prophète de Dieu ou l'envoyé de Dieu et le sceau de la prophétie, c'est-à-dire celui qui est venu sceller une fois pour toutes la lignée de la prophétie, la chaîne de la prophétie. Donc son message, c'est lui qui restera jusqu'à la fin des temps, qui restera valable en tout cas aux yeux de Dieu. Ensuite, il y a une quatrième caractéristique du droit islamique, c'est sa conformité avec l'inéité de l'être humain, avec la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas un système qui est contre nature. Et pour cela, nous avons deux sous-caractéristiques, n'est-ce pas, qui caractérisent donc le droit islamique. La première sous-caractéristique, c'est ce qu'on appelle en arabe « rafa'ul haraj », c'est-à-dire la suppression de tout embarras en ce qui concerne le droit islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit islamique est venu avec un objectif bien précis, assurer le bien-être de l'être humain sous toutes ses formes. Ça, c'est la première sous-caractéristique. La deuxième sous-caractéristique de cette caractéristique, c'est At-Tadarruj. Pour illustrer la première sous-caractéristique qui est d'assurer le bien-être de l'être humain et éloigner toute difficulté de l'être humain, du croyant précisément, nous avons un certain nombre d'illustrations dans le Coran que je vais vous lire rapidement. Il y a principalement ce verset-là qui se trouve dans Sourate Al-A'raf. N'est-ce pas? C'est le verset numéro 157 de Sourate Al-A'raf, dans lequel Dieu dit, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du message qu'il est venu véhiculer à l'humanité. Le verset nous dit: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Où Dieu invite les hommes. Ce verset là qui se trouve dans Sourate Al-A'raf, dans ce verset, Dieu parlait au prophète Moussa alayhi salam plusieurs milliers d'années avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez consulter le verset numéro 157. Alors, qu'est-ce que Dieu disait au prophète Moussa alayhi salatu wasalam? C'est lorsque Dieu a donné rendez-vous au prophète Moussa sur le mont Sina. Dieu lui a donné rendez-vous. Moussa est resté sur la montagne pendant 40 nuits pour recevoir les commandements de Dieu. À son retour, il a trouvé que son peuple est tombé dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'un veau d'or qui a été fabriqué par un d'eux avec les perles, les bijoux en or des femmes d'Israël. Lorsque le prophète Moussa était revenu, il était hors de lui-même. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, il a cassé le veau d'or et il s'est adressé à Dieu pour demander donc pardon pour son peuple, pour effacer ce péché, pour absoudre ce péché. Dieu a demandé au prophète Moussa de venir avec 70 hommes sur la montagne pour prier Dieu, pour implorer Dieu le pardon de Dieu, afin que Dieu efface ce grand péché qui est le péché du polythéisme. Alors, dans la prière, Moussa a adressé une longue prière à Dieu, Évidemment, ils ont été effrayés par Dieu parce que Dieu a soulevé le sommet de la montagne avec un très grand bruit, un très grand vacarme qui les a complètement écrasés. Tout cela, c'est le Coran qui nous en parle en détail. Lorsque ils ont retrouvé leur sens, le prophète Moussa a continué donc à prier Dieu, en demandant à Dieu de ne pas les punir tous pour les mauvaises actions qui ont été commises par des sots parmi eux, en disant à Dieu, « La tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna ». Alors Dieu a répondu à Moussa en lui disant, « J'accepte ta prière, je guiderai sur mon chemin qui je veux, j'égarerai qui je veux, mais je prescrirai ma guidée et mon salut pour les gens qui croient en moi et qui suivront le prophète illettré qui viendra après moi. Alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil. Le prophète illettré dont le nom figure chez eux dans la Torah et dans l'Évangile, qui a un certain nombre d'attributs. Il leur ordonne le convenable, il leur interdit le blâmable, il leur interdit, il leur ordonne, ou bien il leur rend licite ce qui est pur et illicite ce qui est impur. Et il les déchargera du fardeau et des chaînes qui étaient sur eux. C'est-à-dire que c'est le prophète-là qui viendra leur faciliter leur vie. Parce que les premiers prophètes avaient beaucoup de... Les premières communautés qui croyaient en Dieu avaient beaucoup de difficultés dans leur vie. Il y avait beaucoup de choses qui leur étaient interdites. Et Dieu a rendu licite la plupart de ces choses-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Alors ça, c'est une illustration d'une des caractéristiques du droit islamique qui est venue assurer le bien-être. Et les ulémas de l'islam, vous pouvez prendre le cas de l'imam al-Shatibi dans Al-Muwafaqat, qui a dit que il n'y a pas une législation de l'islam, que ce soit un interdit ou bien quelque chose de licite, qui ne va dans le sens de l'intérêt de la communauté musulmane. Alors, donc ça c'est pour illustrer cette sous-caractéristique. L'illustration de la deuxième sous-caractéristique qui est at-tadarruj, c'est-à-dire le caractère graduel du droit islamique. C'est-à-dire lorsqu'on veut appliquer le droit islamique dans une société, il n'est pas dit que le même jour, sans, avant que les gens ne comprennent de quoi il s'agit, que l'on vienne tout appliquer d'un seul coup sur les gens. Le prophète lui-même, alayhi salatu salam, n'a pas procédé de cette manière. Pour vous illustrer cela, je vous donne un exemple. L'interdiction, par exemple, de l'alcool. Il y a eu trois versets qui ont été révélés successivement, à des intervalles différents. Le premier verset qui est venu interdire l'alcoolisme, c'est ce verset dans lequel Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les croyants pour les dire « Yas'alunaka anil khamri wal maysir » On vous interroge au sujet de l'alcool et du jeu de hasard. Alors dites-leur, fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. L'alcoolisme ou l'alcool et le jeu de hasard contiennent un très grand péché, et même si ça comporte des bienfaits, les bienfaits sont plus nombreux. Les bienfaits sont moins nombreux, c'est-à-dire les mauvaises choses que ça contient sont plus nombreuses que les bonnes choses que ça contient. Donc ça, c'est un premier verset pour préparer, n'est-ce pas, l'état d'esprit des croyants qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a eu un deuxième verset qui a été révélé quelque temps plus tard. Ce verset-là disait aux croyants, et je cite, « Ya ayyuha alladhina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara, hatta ta'alamu ma taquloun. » Ici, le verset interpelle les croyants en leur disant, « Oh, vous qui croyez, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse. » Voyez-vous, donc, le Coran s'est avancé d'un pas dans le sens de l'interdiction de l'alcool. Lorsque vous êtes en état d'ivresse, n'approchez pas la prière. Or, on sait par exemple, puisqu'il y a 5 prières quotidiennes, quelqu'un qui veut rentrer dans ses prières, dans la sérénité, au cours de la journée, ne peut pas prendre l'alcool. Donc, la plupart des compagnons du prophète se sont abstenus de prendre l'alcool parce qu'ils savaient donc qu'ils devaient prier. Et enfin, il y a eu le troisième verset qui est venu de manière définitive, mettre fin donc à la consommation des boissons alcoolisées. Ou bien en tout cas de toute boisson, que ce soit une boisson ou un liquide ou un gaz, n'est-ce pas, qui, et nous verrons ça dans les détails lorsque nous allons rentrer, avancer plus loin. Et qu'est-ce que le verset dit ? Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda fi al-khamri wal-maysiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis-salah fahal antum muntahun. Voilà le verset qui a été révélé dans ce sens. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Ya ayyuha alladhina amanu. Dieu interprète ici les croyants, interpelle les croyants en leur disant Ya ayyuha alladhina amanu. Oh, vous qui croyez, sachez que al-khamru, l'alcool, wal-maysiru, le jeu de hasard, wal-ansabu, les idoles,